journal Florence Paracuelos, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. À la une ce matin, le côté obscur de la force quand la police dérape, quand son ministre la rappelle à l'éthique. La parole de Christophe Castaner hier très claire face aux derniers exemples de violence policière. Il recevra tout à l'heure la veuve de Cédric Chouvia après être allé saluer la mémoire d'un fonctionnaire renversé près de Lyon ce week-end et mort hier. Les deux faces de la violence dans ce journal, suivi de l'analyse de votre invité à 8h20, Nicolas.
Oui, il s'agit de Patrice Pinozzi, il est avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, grand spécialiste, grand défenseur des libertés publiques, au micro d'Inter dans le grand entretien de la matinale. Appelez-nous, le standard est ouvert. 01 45 24 7000.
Dans ce journal aussi, des pontes de l'hôpital qui menacent de démissionner de leurs fonctions administratives. C'est un nouvel exemple de la crise. La pénibilité au travail au cœur de la réforme des retraites, réunion aujourd'hui chez Muriel Pénicaud. Auchan, 1000 emplois menacés, une histoire de désamour des hypermarchés. Notre série sur la campagne des municipales à Saint-Étienne ce matin avec deux frères ennemis, anciens footballeurs de la mythique épopée des Verts. Et puis que diriez-vous d'aller boire un verre dans un bar-truck, un camion bistrot qui fait la tournée des villages? Ça se passe dans le Cher et ça se passe très bien.
France Inter.
Les yeux dans les yeux, la douleur d'une veuve face au ministre de l'Intérieur, les mots d'une femme qui a perdu son mari, Cédric Chouvia, mort le 5 janvier après avoir été arrêté par des policiers deux jours plus tôt, plaqué au sol et asphyxié. Doria Chouvia n'a pas de haine de la police et voici ce qu'elle va dire à Christophe Castaner.
Je vais lui dire qu'il va dans le bon sens et que je l'encourage à nous aider à sortir de ce cauchemar, en fait, et à faire en sorte que l'histoire ne se répète pas. Les vidéos et les témoignages parlent d'eux-mêmes. Moi, la violence, je la vois pas chez mon mari, là. Moi, la violence, concrètement, je la vois sur les quatre individus qui s'acharnent sur lui. Et faut savoir qu'il y a une circulaire qui dit bien que les policiers n'ont pas de protection spécifique par rapport au droit de l'image. Donc, mon mari était dans ses droits. Et s'il a filmé, j'ai envie de vous dire, je pense pas qu'il ait eu un coup de cœur pour eux. Je pense tout simplement qu'il cherchait derrière à contester une injustice dont il avait déjà fait preuve dans un premier temps.
Doria Chouvia, interrogée tout à l'heure sur France Info, reçue donc par le ministre de l'Intérieur aujourd'hui, confrontée à plusieurs autres événements qui jettent une ombre sur le comportement de certains policiers. Ces vidéos qui montrent ici un croche-pied gratuit fait à une manifestante jeudi dernier, là un tir de LBD quasiment à bout portant le même jour, ou encore une grenade lacrymogène tirée vers la fenêtre d'une étudiante à Lyon samedi. D'où ce rappel de Christophe Castaner à l'exemplarité et à l'éthique hier dans ses vœux à la police nationale, voilà qui n'est pas commun pour un ministre de l'Intérieur, Emmanuel Leclerc.
Dans l'entourage du ministre, on confirme la volonté d'un sérieux rappel à l'ordre qui avait commencé après la mort de Steve Canisso à Nantes, à la suite d'une intervention policière contestée lors de la fête de la musique sur les bords de Loire. Cette fois, c'est la mort de Cédric Chouvia à Paris à la suite d'un contrôle routier qui a provoqué un changement de ton place Beauvau, avec en point d'orgue hier lors des vœux à la police nationale, un discours qui rappelle celui du préfet Grimaud en 1968. L'exemplarité, quelles que soient les situations, un usage juste et proportionné de la force est ce qui sépare la démocratie de l'arbitraire, ce qui distingue l'ordre de la brutalité. Pour Christophe Castaner, c'est aussi l'image du croche-pied d'un policier à une manifestante à Toulouse, reprise en boucle le week-end dernier, qui ne passe pas. Ce serait même l'honneur de la police qui serait en jeu. Selon nos informations, l'auteur du croque en jambe vicieux à un gardien de la paix toulousain a été identifié après une enquête administrative interne en attendant une possible procédure judiciaire.
Et après ses vœux en forme de rappel à l'ordre, Christophe Castaner s'est rendu au chevet des policiers de Lyon hier soir. Ils ont perdu l'un des leurs, mort dans l'après-midi, après avoir été percuté volontairement par un fourgon ce week-end à Bron. Pour saluer sa mémoire, plusieurs syndicats de policiers appellent à des rassemblements silencieux devant les commissariats aujourd'hui. Leur métier est dangereux, exercé au péril de leur vie. C'est ça que veut rappeler Philippe Capon, secrétaire général du syndicat UNSA Police, au micro de Delphine Evenou.
Nous, on tient absolument à souligner ces événements, ces moments où la police fait son travail. On a des milliers de blessés chaque année en intervention, en opération. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu des problèmes dans la gestion du maintien de l'ordre. Nous, à l'UNSA Police, on dénonce aussi un certain nombre de choses qui ne se sont pas forcément faites dans les règles. Mais il ne faut pas oublier tous les jours ces policiers qui souffrent, qui travaillent jour et nuit à la protection, à la sécurité des citoyens. L'oublier, ce serait grave. Et nous, on tient absolument, au travers du décès de notre collègue Franck, à souligner l'engagement des policiers quotidiennement à la protection des citoyens français et au travail compliqué qu'est celui de policiers aujourd'hui.
Voilà, et d'ailleurs, deux policiers se sont suicidés sur leur lieu de travail à à Rennes et à Saint-Nazaire hier.
Il est 8h06, Florence, ce sont des grands pontes de l'hôpital public.
600 chefs de service et plus de 400 médecins menacent dès aujourd'hui de démissionner collectivement de leurs fonctions administratives. Il faut des négociations rapides sur le budget et les salaires, écrivent-ils dans une lettre adressée à Agnès Buzyn. L'hôpital va mal. En voici un nouveau signal d'alarme. La professeure Agnès Linglard, pédiatre à l'hôpital Bicêtre à Paris, est l'une des premières à avoir signé. Véronique Julia l'a rencontrée.
Plus de 20 ans qu'elle travaille à l'hôpital public. Aujourd'hui, Agnès Linglard en dirige un pôle important de pédiatrie qui réunit plusieurs établissements du sud de Paris. Elle se dit sans étiquette politique, ce sont 10 ans de gouvernements successifs de tous bords qu'elle accuse. 10 ans de restrictions budgétaires faites à l'aveugle, sans tenir compte des réalités du terrain. Aujourd'hui, il faut tout repenser, dit-elle, et d'abord nous écouter.
On ne peut pas continuer avec le même genre de politique. On veut être associé au choix financier, au choix des projets, qu'un projet ne soit pas uniquement choisi parce qu'il améliore les finances de l'hôpital. Un projet peut être choisi parce qu'il améliore la qualité des soins.
Les crédits débloqués ces derniers mois pour l'hôpital, c'est bien, mais c'est du sparadrap, estime Agnès Linglard, du sparadrap qui ne règle pas le problème de fond. Soigner plus avec toujours moins.
Dans mon service, les congés maternité, les absences pour maladie ne sont pas remplacées. Donc dans mon service, on assure les diagnostics, les traitements, mais on n'est plus en mesure d'assurer l'éducation thérapeutique, la prise en charge chronique des patients, le poste d'infirmière pour l'éducation thérapeutique. Aujourd'hui, on ne peut pas mettre d'infirmière dessus. J'ai pas assez d'infirmières.
Les services tiennent grâce au dévouement des personnels, ajoute encore Agnès Linglard. Elle relève d'ailleurs que malgré la grève des transports, les infirmières et les aides-soignantes dans son service se sont toutes débrouillées pour être là. Elle savait, dit-elle, qu'avec une seule absente, on ne pouvait plus travailler.
Agnès Buzyn qui se dit consciente en réponse, consciente du découragement des soignants. Elle rappelle que 600 millions d'euros supplémentaires ont été débloqués pour les hôpitaux cette année et qu'un tiers de leurs dettes sera reprise. Les soignants concernés, eux aussi, par la réforme des retraites. Dans les Échos ce matin, le secrétaire d'État à la fonction publique rappelle que les infirmières et les infirmiers vont pouvoir bénéficier du compte pénibilité. Il en parlera aux fédérations de fonctionnaires qu'il reçoit aujourd'hui. La pénibilité, enjeu de l'autre réunion du jour au ministère du Travail, avec les syndicats et le patronat, elle devrait beaucoup compter dans l'âge de départ à la retraite, Hélène Philly.
Il s'agit de mieux reconnaître la pénibilité pour ouvrir des droits à la formation et surtout à des départs anticipés. 1 240 000 comptes pénibilité ont déjà été créés depuis le début du dispositif en 2015 et 4 000 salariés ont commencé à l'utiliser. Aujourd'hui, il y a un plafond, on ne peut pas acquérir plus de 100 points sur une carrière. L'avant-projet de loi ouvre la possibilité de supprimer ce plafond pour financer par exemple un vrai congé de reconversion. La ministre du Travail examine cette possibilité. Muriel Pénicaud ouvre aussi une porte à l'un des 4 critères disparus en 2017, le risque chimique, qui pourrait être mieux pris en compte. Certains seuils d'exposition seront baissés pour le travail de nuit notamment. 110 nuits au lieu de 120 par an donneront droit à des points et les branches professionnelles seraient incitées à mettre en place une vraie politique de prévention avec un système de bonus-malus. Le Premier ministre a promis « ceux qui ont des métiers usants garderont le droit de partir plus tôt ». Un âge d'équilibre à la carte pourrait être négocié en fonction de la pénibilité du travail.
Hier, ce sont les négociations avec les enseignants qui ont commencé. Leur ministre Jean-Michel Blanquer acte pour commencer 500 millions de hausses de salaire pour l'an prochain, peut-être sous forme de primes. Une avancée pour les syndicats qui restent inquiets des contreparties qu'on pourrait leur demander en échange. Enfin, ce mardi est une nouvelle journée d'action contre la réforme. À l'appel de la CGT, FO, FSU et Solidaires, des manifestations auront lieu un peu partout. Mais après 40 jours de grève, la mobilisation s'érode sérieusement à la SNCF et à la RATP. 8 TGV sur 10 en circulation aujourd'hui, 3 TER sur 4, 7 Transiliens sur 10, mais toujours des perturbations dans le métro parisien.
Il est 8h10, la suite du journal sur France Inter. Florence Paracuelos.
1000 emplois menacés chez Auchan. Voilà ce que redoutent les syndicats avant les 3 CSE extraordinaires qui se tiendront aujourd'hui dans le Nord. Il pourrait s'agir de départs volontaires dans un groupe qui ne va pas bien. Auchan a perdu 1 milliard d'euros en 2018. Sa dette s'élève à 5 milliards. C'est son modèle qui donne des signes de faiblesse. Manuel Ruffet, ces hypermarchés de plus en plus boudés par les consommateurs.
La très grande surface, l'hyper supermarché au-delà de 8000 m² chez Auchan, c'est historique. Derrière le groupe, il y a la très discrète famille Mullier qu'on ne voit qu'à de rares occasions. C'était le cas en 2017. Gérard Mullier, venu devant une caméra de France 3, fêtait les 50 ans de son premier ripère à Roncq, dans le Nord, inauguré donc en 67.
J'avais eu l'autorisation par ma famille de faire un 3000 m² et j'ai fait un 6000 m². Donc j'ai ouvert 6000 m². Le jour de l'ouverture, il y avait tellement de monde et un tel succès que ma famille a dit « Tu doubles immédiatement le parking et tu doubles immédiatement le magasin ».
Et le modèle fera la puissance commerciale du groupe.
Qui aurait cru, quand nous avons ouvert ce premier hypermarché en 1967, que nous compterions aujourd'hui plus de 1000 hypermarchés dans le monde.
Mais ce sont bien aujourd'hui ces hyper fer de lance du groupe qui ne fonctionnent plus. Rodolphe Bonnat, spécialiste de la grande distribution.
On n'achète plus forcément son frigidaire, sa télévision, son matériel culturel dans des hypermarchés. C'est tout le rayon que l'on appelle non alimentaire qui aujourd'hui est fortement chahuté, soit par des spécialistes ou soit par des pure players internet comme Amazon.
Auchan à la traîne doit aujourd'hui se transformer, mais à quel prix ?
Emploi menacé chez Opel également. Le constructeur allemand filiale de PSA se prépare à supprimer jusqu'à 4000 postes dans le monde d'ici 2029. Il devait signer un cessez-le-feu à Moscou. Le maréchal Haftar et le chef du gouvernement d'Union nationale qui se font la guerre depuis des mois en Libye. Eh bien, on apprend ce matin que le maréchal Haftar a quitté Moscou sans signer quoi que ce soit. Elle soutient le désir d'Harry et Meghan de se créer une nouvelle vie, communiqué de la reine d'Angleterre hier soir après un conseil de famille. Les différends semblent aplanis, mais reste à définir le futur statut du couple qui veut prendre le large en Amérique du Nord tout en gardant un pied dans la monarchie. Vous l'avez entendu dès 6h sur France Inter, c'est Spike Lee qui présidera le jury du Festival de Cannes au printemps. Le réalisateur américain engagé sera le premier noir à occuper cette fonction dans le plus grand festival de cinéma du monde. Il est évidemment ravi et c'est à lire sur franceinter.fr.
Et à 8h12, Florence en campagne pour les municipales.
C'est notre série tous les jours dans ce journal. 10 grandes villes choisies par France Inter. Aujourd'hui, Saint-Étienne, 172 000 habitants, 13e ville de France, conquise par la droite en 2014. Particularité locale, deux frères, anciens footballeurs de l'âge d'or des Verts, sont engagés dans la campagne, mais pas dans la même équipe, Cécilia Arbonin.
Dans les années 70, les frères Revelli ont écrit ensemble la légende du club. Aujourd'hui, ils sont adversaires. Patrick Revelli, 68 ans, tête de liste de La République En Marche.
Je me dois de rendre à cette ville ce qu'elle m'a apporté à une certaine période de ma vie.
Il est peiné de voir son frère aîné, Hervé, porter les couleurs du maire sortant.
On m'a toujours dit que les coups les plus difficiles venaient de sa propre famille.
Une famille désunie et une gauche divisée avec 5 listes, voilà qui arrange les affaires du favori. Le républicain Gaël Perdriau, confortablement installé dans son fauteuil à l'hôtel de ville, avec le soutien de l'UDI et du Modem.
Ce premier mandat m'a permis de remettre Saint-Étienne à niveau, 13e ville de France, 15e métropole.
Le dernier sondage le place à 43% dès le premier tour.
Nous avons doublé les effectifs de police municipale, triplé le nombre de caméras en ville, gagné en sérénité.
Une vision que ne partage pas Sophie Robert, ancienne patronne du parti de Marine Le Pen dans la Loire.
Il n'y a plus de commerce, c'est une boucherie halal, un kebab et un commerce vide. Il va falloir travailler aussi là-dessus.
Et elle assume son statut de parachutée.
Quand on envoie les équipes de parachutistes, c'est qu'il y a un péril et qu'on envoie l'élite.
En 2014, le Rassemblement national s'était maintenu au second tour dans une triangulaire.
Et suite de notre série, demain nous serons à Perpignan, des grandes villes, aux villages désertés par les commerces et les bistrots. C'est du lien social qui disparaît depuis des années. Recréé par cet habitant du Cher au volant et au comptoir de son bar truck, un bistrot mobile qui fait la tournée des villages depuis plus d'un an, à la plus grande joie des habitants qui l'attendent chaque semaine. Reportage à Asie, près de Bourges, signé Mathilde Dehimi.
Le brouillard est tombé sur Asie, 450 habitants. Le village partage son école avec les communes voisines. Les troquets ont peu à peu fermé. Derrière la bâche, bien protégée, on se réchauffe en jouant au dé. Benjamin, 23 ans.
La génération des anciens qui sont là, ils ont connu les petits bars dans les petits bleds, mais nous, on n'a pas connu, donc c'est pas mal.
Magali est venue avec son fils de 6 ans.
Parce qu'à la maison, il est totalement écran. Il est dans son monde à lui, alors que là, il découvre d'autres personnes que nous. Ah, je sais que le mardi, c'est Asie. Je suis super motivée quand je suis au travail. C'est que je me dis, ah, ce soir, il y a Bartrec, je vais pouvoir boire ma petite bière.
Denis se joint à la conversation.
C'est là où c'est tout bête, mais un coup de main pour faire quelque chose. Tu vois, j'ai du bois à rentrer, tu veux pas me filer un coup de main un après-midi
C'est maintenant que tu le dis, c'est trop tard, c'est déjà fait.
Moi, je voudrais passer un coup de motoculteur chez toi en échange. C'est ces petites choses insignifiantes, peut-être, qui en réalité font le piment de la vie.
Soda à 1,50€, bière à 2,50€. Quand il s'est lancé, on avait dit à Sébastien qu'il augmenterait vite ses prix, mais hors de question.
Si on balance pas spécialement trop cher, les gens ils peuvent revenir, les gens ils peuvent consommer un peu plus, peuvent payer une tournée à plusieurs personnes. Je ne changerai pas pendant des années, c'est sûr et certain.
Sébastien qui a désormais un autre projet, développer la disco mobile, que de la musique des années 80-90.
La disco mobile, mais quelle bonne idée, en tournée dans les villages. Et une bonne nouvelle ce matin, Nicolas, pour finir, les chiffres des audiences radio sont tombés et ils sont excellents pour France Inter.
Oui, Florence et chers auditeurs, immense merci encore pour votre confiance, particulièrement en ce moment. Vous êtes 6 936 000 à nous suivre chaque jour. France Inter est toujours la première radio de France avec près de 500 000 auditeurs gagnés en un an.
Et le 7-9 reste la première matinale de France avec 4 285 000 auditeurs. Florence, vous restez la femme la plus écoutée de France avec 2 300 000 auditeurs qui écoutent votre 8 heures. Voilà, malgré le contexte social tendu qui a parfois perturbé les antennes de Radio France, vous êtes resté fidèle à France Inter et au service public. Merci.
Voilà.
C'est merci. Tout.
Et c'est beaucoup.
Et c'est beaucoup.
La météo, Marie-Pierre Planchon.
La météo avec Via Santé, la mutuelle d'AG2R La Mondiale. Via Santé, la mutuelle qui aide ses adhérents à prendre soin de leur santé. Et vous, comment ça va ?
Coup de vent sur la Manche, Marie-Pierre.
Et oui, Nicolas, dû à la tempête Brendan qui balaye les îles Britanniques et l'Irlande. Et même si ça se calme un petit peu ce matin, on attend de nouveau cet après-midi des rafales à 110 km/h sur les côtes, 70 de la Bretagne à la Lorraine. Et en plus, des forts cumuls de pluie attendus, les marées sont hautes. Donc, le Finistère et le Morbihan sont placés en vigilance orange, pluie, inondation et vagues, submersion comme la Loire-Atlantique. Les nuages arrivent également sur les régions méditerranéennes, avec le vent de sud qui apporte des nuages maritimes de la Côte d'Azur au Roussillon et la moyenne vallée du Rhône. Quelques gouttes sont possibles en bord de mer, la Corse faisant bande à part et le soleil va dominer parfois sous un ciel de l'Aquitaine sous le vent, aux Pyrénées, aux Alpes et à l'Alsace.
Et les températures, Marie-Pierre, sont toujours douces pour la saison.
Et oui, on est souvent 3-7 degrés au-dessus des normales. Ce matin, le jour se lève dans la douceur, sous les nuages, 12 à Belle-Île, 10 à Lille ou à Paris, alors que sous un ciel plus clair, on a des gelées, moins 4 dans l'Isère à Grenoble, mais 5 à Saint-Étienne dans la Loire et dans le Tarn à Cordes sur ciel, il fait aussi moins 3. En journée, ce sera encore doux pour la saison. Au plus bas, il fera 7 à Embrun dans les Hautes-Alpes, 9 à Grenoble, mais 12 à Paris et à Lyon. Il fera 11 à Limoges, à Lille ou Strasbourg. Comptez 14 à Nice, comme à Perros-Guirec et Clermont-Ferrand. 15 à Marseille, à Biarritz et le maximum pour Pau avec 16.
Marie-Pierre Planchon, merci.